When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry.
Alors que vient de s'achever la semaine d'éducation et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, du 19 au 26 mars, nous sommes en présence du maître Olivier Sombé, qui a accepté de nous parler de son travail d'avocat et d'avocat de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. Maître Olivier Sombé, merci beaucoup d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de votre travail. Comment êtes-vous venu à cette fonction d'avocat de la LICRA?
Alors bonjour d'abord. Moi je suis avocat depuis 27 ans à Périgueux. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à assurer la défense de personnes qui étaient victimes de racisme, d'antisémitisme, à très nombreuses reprises, soit pour les conseiller, soit pour les accompagner devant les juridictions. Et puis, je trouvais que c'était aussi intéressant de partager mon expérience professionnelle, mon expérience juridique, avec une association, parce que si on est plusieurs, on est plus fort. Et donc, je me suis engagé à la LICRA pour ça. J'avais de surcroît une amitié avec la présidente de la LICRA, qui est Betty Bieder. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à militer auprès de la LICRA et à être un des 100 avocats de la LICRA en Dordogne. On est 3 avocats de la LICRA en Dordogne actuellement.
Le travail que vous faites concerne quel type de délit, puisque le racisme et l'antisémitisme sont maintenant réprimés par la loi, quel type de délit avez-vous à traiter, par exemple, justement, avec la LICRA?
Alors, la LICRA intervient dès qu'il y a un délit ou une contravention, parce que un acte raciste ou antisémite n'est pas forcément un délit, ça peut être une contravention, lorsque normalement ce n'est pas public. Des injures non publiques peuvent être des contraventions. Donc on est amené, nous, à intervenir, soit dans un cadre de prévention, on peut être amené, lorsqu'on des situations nous sont signalées, à venir pour faire des médiations avec les personnes, pour essayer de faire comprendre, faire avancer, avoir un rôle pédagogique par rapport à cela. On est aussi amené à suivre les personnes qui sont victimes. Alors ça peut être victime d'injures à caractère racial ou antisémite. Ça peut être victime de violence également, avec une connotation raciste ou antisémite. Ça peut être également des propos discriminatoires qui ont été commis à l'encontre de ces personnes. Donc c'est dans ce cadre-là que la LICRA est saisie. Et lorsqu'il y a besoin, ensuite, l'avocat de la LICRA intervient pour assister ces victimes.
Lorsqu'il y a des contraventions, vous parlez de médiation. Ça veut dire que vous rencontrez les parties et vous essayez d'aboutir à ce que le contrevenant reconnaisse ses torts et fasse des excuses.
Alors ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être aussi un échange entre la victime et l'auteur de ce genre de fait. J'ai des exemples très concrets. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne de la Ligue départementale de football. Et qui nous disait que dans le football, notamment sur le bord des terrains, il y avait de plus en plus souvent des actes, des injures racistes qui pouvaient être promulguées. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que l'on peut intervenir. On est intervenu dans le cadre de médiation, notamment il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu des injures comme ça, pour faire une médiation entre les personnes, pour pouvoir essayer d'avoir un rôle pédagogique, d'expliquer pourquoi c'était une infraction, et faire en sorte finalement que l'objectif c'est que ça ne se renouvelle pas et que la personne ait prise conscience de l'acte qu'elle avait commis. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. En tout cas, on fait tout pour ça. Et lorsque ça marche pas, après ça peut aller plus loin avec une plainte pénale, avec des poursuites pénales, puisque les parquets sont extrêmement sensibilisés sur cette problématique.
Alors justement, là, on va aborder, il y a plusieurs chemins à aborder. La prévention, la sensibilisation du monde juridique à ces contraventions, à ces délits. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté au cours de votre carrière déjà? Est-ce qu'il y a eu un progrès sensible?
Au niveau de la prévention, vous voulez dire?
Oui, au niveau de la prévention.
Alors, au niveau de la prévention, moi je parlais au niveau du travail que l'on fait à l'ICRA. Hein. Au niveau de la prévention, il y a vraiment alors, c'est un travail qui est fait entre l'ICRA et certains ministères, puisqu'il y a une convention entre la l'ICRA et le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions intervenir au sein des écoles, notamment des écoles de police, des écoles de gendarmerie. Donc à chaque session, on intervient pour sensibiliser les futurs policiers et les futurs gendarmes sur le racisme et l'antisémitisme. Il y a une convention qui est signée également entre le ministère de l'Intérieur et certaines ligues sportives, où la LICRA peut intervenir également pour faire à Clairefontaine, par exemple, en région parisienne, pour intervenir pour sensibiliser les joueurs, les dirigeants, les ligues également, sur le racisme et l'antisémitisme. Il y a également un travail de prévention au niveau des écoles, puisque un des premiers endroits où il faut sensibiliser les jeunes, c'est au niveau des écoles, des lycées, des écoles, où il y a des interventions également que l'on fait en accompagnement avec des enseignants, au niveau des lycéens, au niveau des collégiens.
Malgré ça, et vous avez évoqué le monde du football en particulier, on a l'impression que la parole raciste et antisémite se libère depuis quelques années. Est-ce que c'est une sensation que vous avez ou est-ce que vous l'avez vu transparaître à travers la fréquence des cas que vous avez eu à traiter?
Alors, je vais vous dire quelque chose à mon niveau, parce que je ne suis pas sociologue, je n'ai pas une vision globale sur ce qui se passe sur le territoire. Moi, ce que j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression que la parole se libère plus qu'avant. J'ai l'impression simplement qu'il y a plus de biais de libération de cette parole. Je pense notamment aux réseaux sociaux.
Bien sûr.
Où les gens vont davantage vont se lâcher, là où se lâchaient avant dans la rue, ils vont le faire sur les réseaux sociaux. Et puis
en pensant bénéficier d'une certaine impunité, un acte qui se fait un peu en cachette.
Bien sûr, on est chez soi, derrière son écran, il n'y a aucune difficulté effectivement il n'y a aucun complexe pour faire ça. Donc ça va se libérer comme ça. Je suis pas certain que ça soit plus qu'avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les victimes ont plus le sentiment d'être victimes et vont davantage peut-être déposer plainte, faire des signalements, saisir des associations pour dénoncer ce genre de fait. Donc ce qui fait qu'effectivement les chiffres augmentent beaucoup. Au niveau national, il y a une augmentation des plaintes pour des actes racistes et antisémitisme. Je ne suis pas sûr que ce soit en augmentation par rapport à avant, mais ça, les plaintes effectivement augmentent.
Vous avez évoqué les actions officielles et on peut parler aussi l'existence de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puisque Radio Libre en Périgord fait des émissions justement pour venir en soutien à ce travail de prévention demandé par la DILCRA. Est-ce que le département de la Dordogne présente des particularités en ce qui concerne l'action de la LICRA, à votre avis?
Alors, qu'est-ce que vous appelez les particularités?
Est-ce qu'il y a, il y a une forme des... Alors, on parlait tout à l'heure vous avez parlé du racisme au football. Alors, le racisme au football, on le voit s'exprimer largement dans des grands matchs, et d'une façon qui est quelquefois vraiment très, très spectaculaire et assez, assez invraisemblable. Est-ce qu'on a ce genre d'événement en Dordogne ou est-ce que vous considérez qu'il y a un rejet particulier des migrants ou des personnes qui sont en général sujettes aux attaques racistes et antisémites?
Ce qu'on a en Dordogne, c'est le racisme de la bêtise ordinaire, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on a, ça va être en matière sportive, ça va être sur des terrains où des gens vont déborder dans des propos racistes et antisémites. Ça peut être dans des quartiers également où des gens vont être en tension. Eux-mêmes vont être en difficulté et vont exprimer leurs difficultés à l'égard de la personne d'étranger, à l'égard de la personne qui est différente d'eux. Je mettrais ça d'ailleurs sur le même plan que l'homophobie. On a le même genre de situation. C'est ça qu'on retrouve beaucoup en Dordogne, je trouve. Beaucoup en Dordogne. Parce que la Dordogne n'est pas véritablement. En tout cas, sur Périgueux, ce que je connais, hein, c'est surtout ça qu'on rencontre.
Le travail de sensibilisation des écoles ou de publics particuliers qui sont confrontés ou qui peuvent être entraînés dans des attitudes racistes et antisémites. Vous parliez tout à l'heure de la police. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble porter ses fruits, et est-ce que il y a d'autres agents qui viennent en appui de la LICRA pour faire ce genre de travail?
Il y a plusieurs associations, hein. Il y a la LICRA, la Ligue des droits de l'homme intervient également, il y a d'autres, et SOS Racisme, il y a beaucoup d'interventions d'associations. La DILCRA également, qui est un organisme ministériel qui est sensibilisé sur le racisme et l'antisémitisme, intervient également dans les écoles. D'ailleurs, quand on intervient dans les écoles de police ou de gendarmerie, souvent on intervient en binôme avec la DILCRA, ou alors juste après la DILCRA. Donc il y a ces organismes-là. Qui interviennent dans ce cadre de prévention.
On vient d'avoir encore un exemple de débordement dans le cadre des actions de la police. Est-ce que vous pensez que... Alors ça, c'est une question un petit peu délicate. Quoi. Est-ce que vous pensez que la police constitue un milieu particulier qui est, dans lequel il y a un foyer de racisme avéré qui s'exprime dans certaines occasions?
J'oserais dire que non. Oui. J'oserais dire que non. J'oserais dire que la police est représentative des citoyens et qu'il n'y a pas plus de personnes racistes dans la police qu'il y en a dans la population.
Dans votre expérience, alors il y a des milieux comme ça, comme la police, l'armée, est-ce que vous avez eu affaire à des affaires, traiter des affaires justement qui impliquaient des personnes venant de ces corps?
En Dordogne, non. On a eu une affaire il y a quelques années avec un pompier, mais c'était une personne qui était isolée, c'était pas le corps du tout, et la hiérarchie a réagi avec fermeté pour sanctionner cette personne. On a eu au niveau du tribunal de Périgueux, on a eu un fonctionnaire un jour qui a été condamné, hein, qui a été sanctionné, qui a été condamné, donc tout ça je peux en parler, pour incitation à haine raciale. Ouais. Donc c'est vraiment tous les milieux, c'est pas spécifique à tel ou tel. Mais... Et ce sont des personnes, j'ai le sentiment que c'était des personnes qui étaient isolées.
C'est ouais, pas... ça reste ponctuel.
Voilà, j'ai ce sentiment-là en Dordogne par rapport à l'expérience que j'ai.
Ouais. Alors. Si on reste sur la Dordogne, on est un département qui est assez largement rural, comparé à beaucoup d'autres départements français. Est-ce qu'il y a un racisme spécifique au milieu rural, à votre avis, à partir des affaires que vous avez pu avoir à traiter?
Ce qu'on a beaucoup, ce sont les injures à caractère racial ou antisémite. Ça, les injures, les propos, pas forcément d'écrits ou de propos par Internet, mais surtout beaucoup d'injures. On a aussi des comportements de discrimination à l'embauche qu'on peut avoir. Ouais. En tout cas, des personnes qui ont le sentiment d'être discriminées à l'embauche, alors c'est extrêmement difficile à démontrer et à prouver. Mais des personnes viennent nous voir en disant qu'elles n'ont pas été prises alors qu'elles avaient un meilleur CV que d'autres personnes. Et elles soupçonnent que ce soit lié à leur origine, à leur couleur de peau ou à leur origine.
Alors, discrimination à l'embauche, discrimination à la location, discrimination
à l'entrée
dans une boîte de nuit. Est-ce que tout ça, c'est des choses que vous rencontrez presque quotidiennement ou régulièrement dans votre activité?
C'est pas quelque chose, et j'en suis heureux, qu'on rencontre régulièrement. C'est quelque chose des choses que l'on rencontre, c'est pas des choses que l'on rencontre régulièrement à notre niveau.
Voilà. Ça tient au fait qu'on est dans une ville moyenne. Et dans un département qui est peut-être éloigné des foyers d'activités racistes ou antisémites, je ne sais pas.
Je pense pas que la Dordogne soit un département raciste. Je crois que les gens sont assez ouverts, globalement. Après, il y a toujours des personnes isolées qui vont avoir des comportements qui vont être sanctionnables. Ce que je veux préciser quand même, c'est que les parquets sont extrêmement sensibilisés à ce genre de choses. Et lorsqu'il y a des plaintes qui sont faites par des victimes, la plainte n'est pas laissée de côté. Vraiment, le procureur demande au commissariat de police, à la gendarmerie, d'instruire les plaintes, d'enquêter et de faire remonter ensuite les dossiers. Et après, il y a des traitements qui sont faits. Hein. Les traitements sont divers, mais il y a vraiment une réaction au niveau des parquets. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et le fait qu'on soit dans un département ou un petit département, je pense que ça incite à ce que tout soit traité. Par rapport à des grosses villes comme Paris ou comme Bordeaux, où les commissariats sont pris sous la masse, là, les parquets sont extrêmement pointilleux par rapport à ça.
Et alors, on a parlé du milieu scolaire. L'expérience que vous avez du milieu scolaire, je ne sais pas si vous intervenez quelquefois en milieu scolaire.
Ça peut arriver, oui.
Quelle est votre impression sur le milieu scolaire? Est-ce que l'école est encore un lieu de tolérance ou bien est-ce que justement les nouveaux moyens de communication, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, font que il y a des choses qui débordent un petit peu.
Alors l'école est toujours un moyen de, je pense que c'est un moyen effectivement d'éducation toujours. Maintenant, quand on intervient au milieu scolaire, souvent on a des jeunes, parfois certains jeunes qui ne comprennent pas où est le problème. Vous luttez contre le racisme, l'antisémitisme, vous me dites que je ne dois pas faire ça, je ne dois pas dire ça, mais où est le problème? Voilà ce que l'on entend. J'ai le droit de penser ce que je veux, sinon je ne suis plus en liberté. Donc pourquoi vous m'interdisez tout cela?
Là, c'est un cas d'ignorance totale.
Mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais ça est arrivé à plusieurs reprises, c'est ça que je veux dire, quand on dit cela. Donc c'est là qu'il y a un rôle pédagogique à faire. Ouais. Expliquer pourquoi effectivement on intervient, pourquoi ce n'est pas qu'une opinion, pourquoi c'est une infraction, et pourquoi c'est sanctionné. Là, il y a tout un travail effectivement pédagogique à faire, parce que si ce travail pédagogique n'est pas fait dans les familles, simplement, l'école, c'est fait dans l'école, mais parfois il n'y a pas toujours le temps d'insister dessus. Si nous, on n'intervient pas pour réinsister là-dessus, pour expliquer tout ça, eh bien c'est souvent, parfois, ça peut être des jeunes qui vont passer en dehors de ça et qui ensuite, plus tard, vont avoir des comportements qui vont être graves.
Alors là, vous avez, dans les contacts que vous avez avec le milieu scolaire, vous avez des contacts avec les enseignants, parce qu'il y a quand même des cours d'éducation civique qui sont donnés et dans lesquels ces problèmes sont forcément abordés, en principe.
Oui, ils sont abordés, mais après ça n'empêche pas un jeune de se dire s'aborder, mais pourquoi, à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert? Je pense que je veux, je fais ce que je veux. L'aspect juridique n'est pas forcément toujours abordé, puis les programmes sont lourds, donc et puis après vous avez toujours des gens qui sont récalcitrants, qui ont du mal à comprendre des choses, peut-être parce qu'ils sont dans un environnement aussi familial qui fait que ça n'aide pas forcément à comprendre certaines choses.
On va revenir, si vous voulez, un petit peu sur l'arsenal juridique. Quels sont les moyens que vous avez à votre disposition maintenant pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, puisque ces moyens, on l'avait évoqué tout à l'heure en commençant, se sont diversifiés. Est-ce que vous êtes mieux armé pour lutter contre ce genre de contravention, de délit? Est-ce que dans le domaine de la répression, il y a eu un effort sensible qui a été fait?
Alors, au niveau, la question est très vaste. Hein. Au niveau des signalements, il y a des moyens qui ont été mis à disposition des personnes. Il y a une plateforme, notamment une plateforme Pharos, qui permet de signaler des contenus à caractère raciste ou antisémite sur Internet. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Lorsqu'il y a un contenu, on peut se signaler à la plateforme Pharos, qui est tenue par des gendarmes et des policiers au niveau national, et qui vont tout de suite intervenir pour mener une enquête et pour aller jusqu'à la poursuite, effectivement, de ce type d'infraction, y compris à l'encontre des sites. Donc ça, c'est une chose. au niveau de l'arsenal strictement juridique, ben, la loi, hein, la loi qui prévoit des peines allant jusqu'à des peines d'emprisonnement, notamment lorsqu'il y a un délit, et la loi qui permet également de renforcer les sanctions lorsqu'une infraction simple a été faite dans un objectif raciste. Je m'explique. Des violences simples, vous allez avoir une peine d'emprisonnement qui va être donnée. Lorsque cette peine d'emprisonnement avait un mobile, lorsque cette violence avait un caractère de avait un but raciste ou antisémite, la peine qui va être donnée va être plus sévère. Un meurtre, par exemple, un meurtre simple, si on peut parler du meurtre simple, est puni de 30 ans d'emprisonnement. Lorsque le meurtre a un mobile raciste ou antisémite, ça va être l'emprisonnement à perpétuité. Donc l'arsenal législatif s'est renforcé par rapport à ça.
Mais ça va, cette augmentation du tarif, elle va jusqu'aux petits délits, aux injures par exemple. Si une injure est raciste, elle est plus lourdement sanctionnée qu'une injure normale, entre guillemets.
Tout à fait. Une injure normale est une infraction. Parfois, tout le monde ne le sait pas. Mais une injure normale est une infraction. Lorsque cette injure a un caractère raciste ou antisémite, la peine, effectivement, est augmentée de ce fait-là.
Automatiquement.
Mmh.
Je voudrais revenir un petit peu sur l'antisémitisme. Est-ce que c'est un problème en Dordogne? Comment se situe actuellement l'antisémitisme qui ressurgit, on le voit dans notre pays à toutes les occasions, enfin c'est souvent quand même, étant donné le passé historique du département, le fait que des juifs aient été abrités en Dordogne, en particulier en milieu rural, qu'il y a eu quand même des actions qui ont prouvé concrètement que la population n'était pas foncièrement antisémite.
Alors, l'antisémitisme en Dordogne, enfin, ce que j'ai pu en voir, moi, ça se caractérise parfois par des tags, des croix gammées qui vont être mis sur des murs, plus que des écrits. C'est plus ça. Moi, je me souviens d'une affaire dans laquelle une commune de Dordogne, un jour, s'est réveillée avec des tags, des croix gammées un peu partout, avec des propos antisémites.
Ah, avec des propos antisémites.
Voilà. Et en fait...
Autrement, des croix gammées, enfin, évidemment, si ces croix gammées sont sur des tombes et que les tombes ont été profanées, là, donc... C'est, est-ce que les croix gammées seulement attestent automatiquement d'une démarche antisémite?
Il y avait des propos à côté. Il y avait des propos à côté. Mmh. Et donc c'était... Alors, ça reste isolé, hein, mais on a eu ça, effectivement, en Dordogne, ce qui a amené une enquête. On a retrouvé la personne qui a été jugée par la suite.
Et là, dans un cas comme ça, c'est lié à une réaction individuelle, épidermique.
Voilà.
Est-ce que y a un arrière-plan de conflit
La particularité de ce truc-là, c'était la personne qui avait fait ça, je me souviens, elle voulait créer un émoi dans la commune pour que les gens soient amenés à réagir justement et à dire bah oui, moi je comprends, je suis d'accord avec ça, je suis absolument d'accord, etc. C'était l'objectif.
Est-ce que les liens entre les manifestations racistes et antisémites que vous avez à traiter ont quelquefois un arrière-plan politique? Est-ce qu'il y a des terreaux politiques qui, à votre expérience, s'avèrent quand même assez propices à la floraison de ce genre de manifestations?
Pas forcément. C'était dans les exemples que j'ai, dans les cas que j'ai, pas forcément. On a beaucoup. Moi, je me souviens de dossiers très récents, qu'on a été amené à traiter sur des injures à caractère raciste dans des logements sociaux. Pas forcément. Je crois que les gens ne se posaient pas la question de la politique. Les gens se posaient la question de leur propre souffrance, qui reportait sur le voisin qui était différent. Après, c'est que mon expérience.
Ouais. Est-ce que vous dites, ça laisse à penser que la plupart du temps, ce sont des actions individuelles? dans des manifestations individuelles. Le sens de ma question, c'était un petit peu, est-ce que quelquefois, cette démarche est une démarche collective qui ressort à une idéologie particulière ?
Ça, je n'ai pas constaté. Non. Ça doit exister, mais je n'ai pas constaté.
Maître Essombé, merci de toutes ces précisions. On a parlé rapidement du rôle des nouvelles techniques d'information et de communication. Donc, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Je voudrais maintenant terminer notre petit entretien par d'abord vous demander si vous avez des choses qui vous paraissent importantes et qu'on n'a pas abordées. Et ensuite, vous demander si, à côté de votre travail d'avocat et d'avocat de la LICRA, donc préoccupé essentiellement par des questions relatives au racisme et à l'antisémitisme, vous avez le temps d'avoir d'autres passions. Alors vous pouvez commencer, commencez déjà par me dire si on a oublié des choses fondamentales.
Non, ce que je voudrais juste signaler, c'est que la LICRA organise un festival du livre au Château des Milandes, au mois de juin, autour de Joséphine Bicker. Donc il y aura des conférences, il y aura des expositions, et il y aura c'est un festival de livres également, pour amener à réfléchir les visiteurs, à réfléchir sur ce qu'est le racisme, sur ce qu'est l'antisémitisme, et sur ce qu'a été le combat de ceux qui ont voulu lutter contre cela. Joséphine Bicker était une militante de la LICRA, et donc on trouvait que c'était une belle illustration de cette grande dame, et de pouvoir lui rendre hommage autour de ce festival.
Vous seriez partisan de la panthéonisation de Gisèle Halimi ?
J'y ai pas réfléchi. Pourquoi pas ?
En tout cas, alors maintenant, puisqu'il nous reste quelques minutes, dites-nous si vous avez d'autres passions que votre métier d'avocat. Et que votre métier d'avocat, venant à la défense des gens qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme. Vous êtes musicien, vous peignez, vous êtes sportif.
Je ne peux pas parler de moi, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens.
Cette dernière question, elle est faite justement pour que les personnes qui nous font le plaisir de nous parler, parlent un petit peu d'eux.
Alors je fais de la musique, je fais de la guitare. Je m'accompagne, je chante à la guitare. Donc ça, c'est une première passion. Accessoirement, je suis enseignant, puisque j'interviens à l'IUT de Périgueux et à l'Université de Périgueux au niveau des AES. Donc j'interviens en droit. Donc je cumule en fait mon métier d'avocat et d'enseignant. C'est une manière de faire du droit différemment. Et puis, je fais pas mal de sport. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de course à pied, tant je peux. Qui permet un peu de se défouler et de réfléchir aussi, parce que quand on court 15, 20, 30 bornes, eh bien on réfléchit.
Oui, c'est vrai que la marche et la course solitaire, c'est un exercice de réflexion.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Beaucoup, Maître Essombé, de tout ce que vous avez apporté. Et bonne continuation de votre combat.
Voilà, ce que je veux simplement dire, c'est que le combat continue quand même, hein, parce que la Dordogne n'est pas illustrative de tout. Le combat continue, donc il faut effectivement se mobiliser. Et puis rappeler que le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, que c'est une contravention, ça peut être même un délit, généralement, et qu'il ne faut pas hésiter à signaler les personnes qui seraient victimes de ce genre de faits, de pouvoir le signaler, d'en parler. Parce qu'il y a des avocats qui sont sensibilisés par ça, il y a des associations qui sont sensibilisées par ça, et puis la justice est également extrêmement sensibilisée par le problème et est prête à soutenir et accompagner les personnes qui seraient victimes de tels actes.
Eh bien, le message est entendu. Merci beaucoup. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
stand by. Whenever you're in trouble,